Chapitre 6. Après une brève suspension de l'audience, le défilé des témoins commençait. Le premier appelé était M. Gustav Weissmann, ingénieur des ponts et chaussées et frère de la victime. Comme il s'était parti civil au procès, le président ne lui fit pas prêter serment. Après avoir défendu la mémoire de son malheureux frère et protesté contre les accusations d'espionnage et d'escroquerie dont Mme Bessarabo l'avait accablé, il brodait un bref tableau de l'intérieur du ménage de Bessarabo, où régnait, disait-il, un désordre excessif et une saleté répugnante. Ensuite, il faisait le récit de la scène que lui avait rapportée son frère, et au cours de laquelle celui-ci avait été, de la part de sa femme, l'objet d'une tentative de strangulation. « Alors, interrogeait Maître de Giaferri, pourquoi est-il resté avec elle ?» M. Gustave Weissmann répondait « Il était indispensable d'éviter tout scandale afin de ménager son crédit. » Poursuivant sa déposition, M. Gustave Weissmann s'écriait « Avant de savoir ce qu'il y avait dans la malle, j'ai dit à ma belle-sœur, les yeux dans les yeux, « L'assassin n'est pas loin !» Madame Bessarabo se dressait, protestant contre les accusations de son beau-frère. Entamant son propre éloge, affirmant qu'au Mexique, aussi bien qu'à Paris, elle avait toujours été la meilleure des épouses, protestant surtout contre ce grief de malpropreté qui semblait l'avoir cruellement atteinte, elle interpellait le témoin en ces termes. « Gustave, vous savez bien que je ne vous dégoûtais pas, que nous étions comme frères et sœurs. Vous savez que j'ai bien élevé mes enfants. Regardez, ma fille, a-t-elle l'air de mourir de faim ?» Décoiffé, décrit Henri Béraud, le visage sablé de rides, son petit chapeau planté de travers, Madame Bessarabo parlait. Inattendu et consternant, tout en ce soliloque se mêlait. Les commérages, les professions de foi littéraires, les souvenirs d'enfance, les affaires de ménage, la louange du judaïsme, les commandes au grand magasin et les affaires de bourse. M. Gustav Weissmann, cependant, attendait à la barre, immobile, les bras croisés. Un moment, il se tourna vers l'accusé. Leurs regards se croisèrent. Alors, la Bessarabo changea de ton. Elle se vit impétueuse, et penchée hors du box, très pâle, les bras étendus, elle haletait. « Gustave, mais dites-le, osez le nier, Gustave, parlez !» Elle se jetait contre les planches, l'air éperdu. C'était comme une Macbeth échevelée et ménagère, dont l'hallucination s'exprimait là, devant 100 témoins stupéfaits, aux pieds de 3 juges rouges et mobiles. « Il y a une balle, Gustave. Je ne l'ai pas tué, Gustave. » Le soir tombait et l'on croyait voir une femme misérable qui se noyait lentement, sans qu'aucun au monde pût lui tendre la main. À la fin, elle se tut. On n'entendit plus que les sanglots de sa fille qu'un gendarme soutenait. À M. Georges Weissmann succédait M. Farali, commissaire aux délégations judiciaires. Après avoir fait un récit très détaillé de l'arrestation des deux femmes, l'honorable magistrat affirmait que, selon lui, les premières déclarations que lui avait faites Mademoiselle Pauline Jacques étaient absolument spontanées. On entendait ensuite l'inspecteur Chéniaud qui exposait les résultats de son enquête sur la moralité des époux et sur les faits destinés à établir la préméditation du crime. L'inspecteur Pendu, qui avait reçu la mission d'aller chercher à la gare de Nancy la fameuse malle, fit à son tour le récit de ses perquisitions. Aux nombreuses questions que lui posaient les jurés, il répondait « Le corps était replié dans la malle, comme celui d'un poulet que l'on va mettre à la broche. » Et il ajoutait ce détail très important « Quand je suis arrivé chez le facteur de la gare de l'Est, à qui Mme Bessarabo avait remis le billet et l'argent pour l'expédition de la malle, la femme de cet homme me dit « Ah, je parle que vous venez pour la malle. Mon mari est bien ennuyé, ça ballottait, boue, dans cette malle. » Combien a-t-il fallu d'hommes pour retirer le cadavre de cette malle? Interrogeait maître de Borgia Ferri. Cinq, ripostait monsieur Pendu. En ce cas, concluait l'éminent avocat, il a fallu bien des efforts pour le maître. Mais au lieu de rester tranquille, madame Bessarabeau continuait à ergoter, à chicaner avec une telle opiniâtreté qu'à plusieurs reprises son défenseur dut l'inviter au silence, sans qu'elle s'y résignât d'ailleurs. Ainsi que l'écrivait ironiquement Joe London, elle devait être d'un commerce charmant dans l'ordinaire de la vie. Mais l'avocat général Mansell se levait, et afin de bien faire remarquer au juré l'importance du témoignage de l'inspecteur Pendu, il s'écriait « Après ce que vient de dire le témoin, il importe, messieurs les jurés, et que vous reteniez qu'à l'instruction, madame Bessarabeau a reconnu avoir brûlé, après l'expédition de la malle, un oreiller de plume et un porte-monnaie. » Rageuse, la femme de lettres répliquait « Oh, mais j'ai dit ça quand j'étais accusée !» Et le président levait cette audience qui, décidément, avait été plutôt mauvaise pour les accusés. Le défilé des témoins à charge allait continuer pendant plusieurs jours. Nous nous contenterons d'évoquer les principaux. Tout d'abord, celui de Madame Cholet, la concierge, qui nous montra M. Bessarabeau rentrant chez lui, le gaz éteint, et en passant devant la loge, s'annonçant par cette abréviation de son nom, B.O. On entendit ensuite plusieurs inspecteurs de la police judiciaire qui avaient été mêlés à l'affaire. Une bourre-trigueur de renseignements nouveaux. Un cousin germain de M. Bessarabeau, M. Signoret, s'en va témoigner que le suicide de son parent lui avait paru suspect. Le docteur Paul, le médecin légiste qui avait procédé à Nancy à l'autopsie de la victime, déclara que la mort de M. Weissmann était le résultat d'un coup de feu qu'il avait atteint dans la région temporale. L'estomac du mort était complètement vide. On pouvait donc naturellement en déduire que la mort était survenue longtemps après le dernier repas. Le docteur Ruminovitch s'en venait à la barre confirmer son rapport qui concluait à l'entière responsabilité de Madame Bessarabeau. Le chauffeur de l'assassiné, M. Croix, qui le premier avait signalé la disparition du négociant, affirma que la bonne intelligence ne régnait plus au foyer de son maître. Et comme l'avocat général lui demandait « M. Bessarabeau, vous a-t-il dit qu'il avait peur de sa femme ou est-ce un propos en l'air ?»« Oh, il en avait peur !» « Oh oui, il en avait peur, » répliquait le témoin. « Et de sa belle-fille encore pire, sic. » Maître de Borgia Ferri observait. « Vous étiez à son service depuis un mois et demi et il vous faisait de telles confidences. » Monsieur Croix répondait. « Mais dès le sixième jour, il ne me considérait pas comme un chauffeur, mais comme un ami. » Monsieur Laforêt, expert en écriture, venait déclarer que selon lui, le billet signé Bessarabeau, demandant l'envoi de la malle à Nancy, était un faux imputable plutôt à la mère qu'à la fille. Mais Madame Bessarabeau s'empressait de déclarer « Mais mon mari imitait ma signature et celle de ma fille. Il lui arrivait même de déformer à plaisir sa propre écriture. Cela ne doit pas étonner de la part d'un homme qui se donnait des rendez-vous à lui-même. » Mais maître de Borgia Ferri, coupant la parole à sa redoutable cliente, s'écriait « Monsieur l'expert a examiné les lettres trouvées dans la casquette de Monsieur Jacques après son suicide. Lettres par lesquelles Jacques rétractait tout ce qu'il avait pu dire ou décrire de défavorable à sa femme. Monsieur l'expert tient-il ces lettres pour authentiques ?»« Mais indubitablement, répondait Monsieur Laforêt à l'avocat. » Le président s'efforçait ensuite de faire préciser certains détails au sujet de la fameuse malle. Et il demandait au concierge Cholet du square La Bruyère « Avez-vous manifesté l'intention de défaire le cordage de la malle pour le refaire ?»« Oui, » répondait le témoin, « mais on m'en a empêché. Alors j'ai consolidé le cordage, sans défaire ce qui avait été fait tout d'abord. Mais je n'ai pas empêché le concierge de toucher la malle, affirmait Madame Bessarabot. Et j'ai pas surveillé Monsieur Cholet tandis qu'il procédait au cordage. Brusquement, le président s'écriait. Mais alors, comment a-t-on introduit dans la malle ce qu'elle contenait? Premièrement, ripostait la femme de lettres, je n'ai mis aucun corps dans la malle, et... Mais vous l'aviez reconnu. Ah oui, dans la période des aveux. Paul Jacques, reprenait Monsieur Gilbert. Les choses se sont-elles passées comme vous l'avez reconnu devant le juge d'instruction, quand vous confessiez avoir aidé à pousser dans la salle le paquet enveloppé d'une toile? Vous le reconnaissez encore? Et d'une voix très basse, Paul Jacques fait oui. Ainsi que le soulignait son défenseur, il ne pouvait être question d'aveu formel, puisque Paul Jacques avait soutenu l'avoir aidé sa mère qu'à remplir la malle de pièces compromettantes pour Bessarabot. Maintenant, Monsieur Grissol, patron du bazar, était appelé à distinguer les cordes qu'il vendait à Madame Bessarabot. Avec un dégoût compréhensible, un huissier procédait à l'ouverture de la malle. Détaché de ses charnières, le couvercle s'abattait sur le sol avec un bruit sinistre. Le spectacle était peu ragoûtant. Ce fut un soulagement quand le couvercle fut remis en place et quand la malle fut enfin emportée. On ne la reverra plus. Mais on en reparlera encore. Plusieurs témoins venaient certifier que le ménage Bessarabot vivait en fort mauvaise intelligence. Le chanoine plaisant de Barcelonnette déclarait: je ne crois pas au suicide de Monsieur Jacques, mon parent et mon ami. Je crois qu'il a été la victime d'un poison lent. Maître de Montrouge-Jaffery lui opposait les lettres trouvées dans le cercueil de Monsieur Jacques et que la veille l'expert déclarait authentiques. Et l'abbé Plaisant ripostait: oh, même si elles le sont, elles ne prouveraient qu'une chose, c'est que le malheureux était très affaibli pour les avoir écrites. Il eût fallu qu'il eût perdu toute raison pour se suicider. Il m'a notamment exprimé, dans une lettre que j'ai versée au dossier, le désir ardent qu'il avait de vivre assez longtemps pour établir ses deux filles, dans la crainte que sa femme dilapidât leur dot après sa mort. D'ailleurs, il était trop chrétien pour se tuer. Mais au moment de la mort, faisait le président, la famille n'a pas porté plainte. C'est pourquoi, faisait le prêtre, je me suis tenu tranquille de mon côté à ce sujet. Vous parlait-il de ses malheurs conjugaux et de son divorce? Oui, mais je l'ai dissuadé de divorcer, mais je l'ai engagé à demander une séparation de corps. Manifestant une réelle émotion, Madame Bessarabot demandait au chanoine d'une voix dont elle s'efforçait d'adoucir la rudesse naturelle: mais n'étais-je pas une bonne épouse, une bonne mère? Vous m'avez connue toute jeune, jeune mariée. M'avez-vous jamais vue au sujet de scandale? Évidemment, nous avons eu des discussions philosophiques. Vous ne voyez que la lettre et moi le symbole. Pour vous, Jésus était un être. Pour moi, c'était un mythe. Mais le chanoine, qui ne semblait nullement disposé à engager une controverse religieuse avec l'accusé, coupait court. Mais nous n'avons jamais, madame, discuté sur ce sujet ni sur aucun autre, car avec vous, il était impossible de discuter plus d'une demi-minute. Allons, voyons, monsieur le cochonnoine, persistait madame Bessarabot. Pouvez-vous dire, vous qui m'avez vu très longtemps, pendant des semaines, dans notre paroisse et dans votre propriété des Alpes, s'il n'était pas irréprochable? Pardon, rectifia l'abbé, je ne vous ai jamais vu, ni des semaines, ni des jours, tout au plus que quelques heures. Et pouvez-vous affirmer que j'ai fait quelque chose contre les lois de l'Église et des hommes? A-t-elle ou non causé du scandale? Précisait maître de Montrouge-Jaffery. Oh, répondait l'abbé plaisant, elle n'avait guère le moyen d'en causer dans notre petit trou. Et l'avocate s'écriait: Oh, vous voulez dire qu'il n'y a rien où le diable perd ses droits? Nous tenions l'harmonium ensemble au château de Barcelonnette, avançait l'accusé. Et mon attitude n'était pas scandaleuse, monsieur l'abbé. Vous m'avez même écrit une lettre d'éloge. D'éloge, non, rectifiait le chanoine. Je vous ai écrit une lettre polie, voilà tout. Et je n'en maintiens pas moins que monsieur Jacques ne s'est pas suicidé. Il a été suicidé, c'est possible, mais il ne s'est pas donné volontairement la mort. L'avocat général demandait au témoin: Monsieur Paul Jacques, vous a-t-il fait part de ses craintes relatives à un empoisonnement par sa femme? Non, il ne me l'a pas dit à moi, mais à mon frère, à qui il a déclaré: Oh, si ma femme pouvait se débarrasser de moi, elle le ferait. Madame Bessarabeau protestait vivement. Mais mon mari avait des hantises. Si on m'a appelé l'ennemi de l'homme, je dois rappeler que j'ai été la femme de deux maris qui ont tour à tour refusé le divorce, avec la même obstination, chaque fois que je le leur ai proposé bien sincèrement. Et s'adressant au témoin, elle ajoutait: Ah, oh, monsieur le chanoine, je laisse à votre conscience le fait d'avoir attendu que je sois en prison pour venir dire vos soupçons. Madame, répliquait l'abbé, il ne m'appartenait pas de prendre l'initiative d'une action judiciaire puisque la famille de monsieur Jacques restait inactive. Maître de Montrouge-Giaferry voulait poser une question au témoin, mais celui-ci avait déjà quitté la barre. Comme le défenseur protestait avec véhémence, l'avocat général ripostait avec non moins de vivacité. Et ce ne fut qu'à grand-peine que le président put ramener le calme entre l'accusation et la défense. On entendait alors un certain nombre de créanciers qui avaient été en rapport d'affaires avec M. Bessarabeau. L'un d'entre eux, M. Spitaler, affirmait « Mme Bessarabeau exigeait de son mari une forte rétrocession sur la commission de 600 000 francs. Elle voulait une part plus grande que celle qui lui était consentie. » L'avocat général soulignait « Je tiens à observer que cette rétrocession suivit la scène de strangulation. C'était donc une réconciliation intéressée, alors que l'accusée a affirmé depuis qu'elle n'avait obéi qu'à une question de sentiment. » Et d'une voix forte, le témoin faisait cette importante déclaration qui allait produire une certaine sensation dans l'assistance. J'ai la ferme conviction que cette fameuse commission fut la cause principale de la disparition de M. Bessarabeau. L'ancien associé de M. Bessarabeau, le banquier Henri Dauphin, allait déposer pendant plus de 2 heures. Que savez-vous de la disparition de M. Bessarabeau ? Lui demandait le président. Moi, j'étais très inquiet du départ de M. Weissmann, répliquait M. Dauphin. Il m'avait parlé de céder une partie de la commission de l'option que vous connaissez. La veille, le 30 juillet, Bessarabeau m'avait promis de rembourser certaines sommes dont il m'était redevable, ou tout au moins de me verser des comptes. Selon vous, fait le président, quelle était l'opinion de Mme Bessarabeau sur le sort de l'option qui devait rapporter à son mari 600 000 francs? M. Dauphin répondait « Oh, n'avez pas l'air de croire sérieusement à la réalité de l'affaire. Elle prétendait même que l'on ne toucherait jamais un centime. » L'avocat général faisait remarquer « Ah, l'instruction, vous avez dit exactement le contraire. » Mais comme maître de Montrouge-Giaferry invitait le témoin à ne pas se laisser intimider, le président se hâtait de poser cette question. Madame Bessarabeau était-elle jalouse de la dactylo de son mari? Oui, particulièrement jalouse, faisait M. Dauphin. Bessarabeau laissait en effet à cette personne des chèques en blanc. Il dépensait beaucoup et laissait les clés de sa caisse à cette dactylographe. Madame Bessarabeau ne vous a-t-elle pas présenté son filleul de guerre? Oui, je fus même assez surpris qu'une personne comme Madame Bessarabot se promenât avec un jeune homme. Monsieur Pibon me parut intelligent, mais naïf. Cet interrogatoire à bâton rompu allait tout d'un coup donner lieu à un vif incident. Madame Bessarabot ayant affirmé que le 31 juillet 1920, jour de la disparition de son mari, on avait eu la conviction dans le bureau de la rue de la Victoire que M. Bessarabot avait eu une communication téléphonique avec sa dactylographe à l'insu de sa femme et de sa fille, qui étaient présentes à ce moment en compagnie du témoin, M. Dauphin, déclara qu'il lui semblait qu'il n'avait jamais rencontré les dames Bessarabot qu'une fois, rue de la Victoire, et que ce jour-là devait être le samedi 31 juillet. Et il ajoutait: mais j'ai eu en effet l'impression que c'était Monsieur Bessarabot qui téléphonait. Mais c'est très grave ce que vous dites là, observait Maître Maud Giafferi, car les têtes de ces deux femmes peuvent être suspendues à votre réponse. Le président demandait au témoin: pouvez-vous affirmer, sur la foi du serment, au bureau, que ce jour-là? J'en ai l'impression, déclarait M. Dauphin, mais je ne pourrais pas le jurer. Et qu'est-ce qui vous a fait croire ce jour-là que c'était M. Bessarabot qui téléphonait dans sa dactylo? Ben, il m'a semblé, formula le témoin, qu'à la suite de la conversation avec la dactylographe, les employés s'étaient mis à rire en présence de la femme et de la belle-fille de leur patron, qui croyaient M. Bessarabot à Évian, alors qu'il n'était peut-être pas loin, à Robinson, par exemple, où il pouvait donner un rendez-vous à sa maîtresse, à la barbe de ces deux femmes. Mais, je le répète, ce n'est qu'une impression personnelle. Je n'ai aucun indice et personne n'a prononcé le nom de M. Bessarabot. L'avocat général appréciait. Votre attitude est bien singulière. J'en tirerai des conclusions. Toujours prêt à la riposte, Maître de Borgia-Ferry lançait à l'avocat général: oh, si vous avez un doute envers ce témoin, il faut le dire sur l'heure. Et le ministère public de répliquer: ce que j'ai à dire tout de suite, c'est que sa déposition est favorable à Madame Bessarabot, mais je n'ai pas de soupçon à son égard. Monsieur Pillement, le filleul de guerre de l'accusé, affrontait ensuite la barre. Âgé de 24 ans, imberbe, doux, correct et myope, il commença par affirmer qu'il n'avait pas été l'amant de Madame Bessarabot. À ma démobilisation, disait-il, je reçus les confidences de ma marraine, que les façons d'agir de son mari inquiétaient beaucoup. Et le 30 juillet 1920, ces dames me prièrent de leur trouver les 1 000 francs qui leur manquaient pour se rendre au Mexique. Je ne devais pas les revoir avant le 2 août. Êtes-vous allé escouer la Bruyère dans la soirée du 31 juillet? Demandait le président. Non, répondait Pillement. J'ai dîné chez mes parents et à 9 heures, j'ai rencontré un ami qui m'a quitté à 11 heures. Ensuite, je me suis couché. Savez-vous si la dame Bessarabot avait un revolver? Oh, il n'en a jamais été question devant moi. Quand avez-vous revu Madame Bessarabot et sa fille? Elles vinrent me voir en taxi le 2 août et me donnèrent rendez-vous pour le soir chez M. Dauphin, où, en ma présence, elles lui parlèrent de la disparition de Bessarabot. Madame Bessarabot ne vous a-t-elle pas parlé de la fameuse malle? Cette fois, le témoin hésitait à répondre. Mais, sur l'instance du président auquel s'était joint l'avocat général, il finissait par déclarer: oui, les accusés m'ont dit que M. Bessarabot était parti le 31 juillet rejoindre sa maîtresse à Évian en les chargeant d'expédier une malle à Nancy. C'est tout ce que je sais. C'était peu de choses. L'accusation aussi bien que la défense durent s'en contenter. Après un défilé de nouveaux témoins, une interminable lecture des dépositions faites à l'instruction par des témoins aujourd'hui défaillants, la jeune dactylographe de feu Bessarabot, Mademoiselle Cazenave, comparaissait à la barre. Le président lui posa la question tant attendue. Bessarabo, vous a-t-il téléphoné le 31 juillet 1920? Et alors avez-vous vraiment ri? Mademoiselle Cazenave, qui semblait fort troublée, s'écriait. Bon, je ne me souviens pas, mais je ne crois pas que M. Bessarabo m'ait téléphoné ce jour-là. En tout cas, il ne conviendrait pas qu'une employée se prenne à rire quand son patron lui téléphone. Non, non, je n'ai pas ri. Le président poursuivait. Avez-vous reçu un coup de téléphone de votre sœur? Oh, il est possible, répliquait Mademoiselle Cazenave, que j'ai reçu plusieurs coups de téléphone de ma sœur ou d'une autre personne. C'était le samedi, mais je répète que je n'ai pas ri. Maintenant, on allait entendre les témoins à décharge. Tour à tour, Madame Roch, une institutrice, M. Bourrin, ancien médecin de M. Jacques, Madame Edma, McCanty, femme de lettres, s'en va faire l'éloge de Madame Bessarabo et de sa fille. Paulette, disait Madame McCanty, est une enfant spontanée et généreuse. Elle ambitionnait le conservatoire, mais elle y renonça pour fournir à sa sœur les sommes nécessaires à ses études. Le témoin allait se retirer, nous rapporte M. Paul Hubert du Petit Journal, lorsque l'avocat général, M. Mancel, la retint à la barre. Le temps de lui donner lecture d'une lettre qu'elle adressa naguère à Madame Bessarabo. Ce fut le point de départ d'un incident des plus tumultueux, presque sans précédent dans les annales de la cour d'assises. La lettre était ainsi conçue. Madame et adorable sœur en idéal, en lisant votre missive, j'ai éprouvé la commotion délicieuse qui vous saisit à l'approche d'un bonheur lointain et attendu. Elle hausse mon désir de vous connaître jusqu'à la prière. Et dans le soir d'hiver, je pleurais en la lisant. Je vous remercie de m'avoir donné la joie de pouvoir contempler la femme que vous êtes et qui représente à mes yeux l'Isis, la Minerve et la Vierge par la glorieuse pureté de l'âme. Je me prosterne quand il m'est donné de rencontrer quelqu'un de tellement divin. Se tournant alors vers les jurés, l'avocat général s'écriait, soulevant les protestations de la défense. « Messieurs les jurés, vous verrez quelle importance vous devez accorder au témoignage d'une femme qui a pu écrire une pareille lettre !» Ces paroles provoquent un charivari indescriptible. Madame McCanty, à demi défaillante, protestait. « Je suis d'abord patriote et alsacienne !» C'est à la suite d'une conférence donnée chez Madame Bessarabo en l'honneur d'un des fils d'une des parties de celles assises devant vous et mort glorieusement au front que j'ai décrit cette lettre à Madame Bessarabo. Alors, maître de Giaferi, l'index tendu vers l'avocat général et s'adressant à Madame McCanty, eut ces mots de réconfort et de riposte. « Rassurez-vous, madame, ces façons ne sont pas toujours heureusement celles de la justice. D'ailleurs, nous avons au palais une association littéraire. Elle donne à certains magistrats l'occasion de publier des productions bien plus médiocres que celles que nous venons d'entendre. » De la stupeur accueillit d'abord ces paroles, que couvrirent bientôt des clameurs et des applaudissements partis de tous les coins de la salle. En vain, le président tentait de dominer la tumulte. « Mais il est intolérable, dit-il, qu'on s'exprime dans des termes semblables en parlant des magistrats. Les débats ne peuvent continuer sur ce ton. » L'avocat général fulminait. « On insulte la justice !» Maître de Giaferi clamait. « Mais j'ai jamais eu l'intention d'insulter personne !» La cour et le ministère public se couvraient pour se retirer. Les vociférations et les bravos redoublaient. Vive Moreau! Vive Moreau! Criait une partie du prétoire. Tumulte inouï au milieu duquel la cour se retirait, tandis que Madame Bessarabo, se penchant vers les parties civiles, vociférait. Vous êtes des bandits! C'est vous qui avez voulu faire envoyer mon enfant aux filles publiques! En vain, ses défenseurs voulurent la calmer, Les deux accusés, comme en proie à une crise nerveuse, refusent de quitter la salle. Une lutte s'engage entre les deux femmes et leurs gardes. Comme Mme Bessarabo résiste, Maître de Morogiaferi, hors de lui, la secoue rudement et lui crie « Madame, retirez-vous, ou je vous fais enfermer à votre tour dans la malle !» Les accusés sont enfin emmenés au milieu de la plus folle confusion.